Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5 000 pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
D'une halte routière à l'autre, aux quatre coins du Québec. Là-haut sur l'autobus. Cube Radio. Cube Radio. Rouler dans les coulisses des élections québécoises.
Bon jeudi à tous. Aujourd'hui à l'émission, peut-on vraiment faire un lien entre immigration et violence, entre fin du français au Québec et immigration? Au reste, quel est le bilan de la CAQ dans le domaine de l'immigration? La chercheure Mireille Paquette de l'Université Concordia qualifie ce bilan de « considérable » et se demande pourquoi le premier ministre n'en parle pas au lieu de faire des déclarations à l'emporte-pièce. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau.
Rémi Nadeau.
Tout a été mauvais. Ça a été un spectacle désolant. C'était triste de voir ça.
Antoine Robitaille.
On sait bien, vous voulez faire du nationalisme. Mais non, on veut justement contrebalancer cette délocalisation-là politique.
La rencontre.
Un jour, on fera notre débat.
Oui, bien sûr.
Métal sur métal.
C'est le moment de vérité.
La rencontre. Nadeau Robitaille.
Et bonjour, Rémi Nadeau.
Bonjour, Antoine.
Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. C'est vrai que les grands rassemblements se font plutôt rares cette année, hein?
Oui, puis j'ai décidé de t'en parler parce que j'ai vu passer que le Parti conservateur du Québec avec Éric Duhaime prépare un dernier grand rassemblement de la campagne qui va se tenir à Lévis vendredi. Du côté des conservateurs, il y en a eu. En fait, c'est ceux qui ont tenu le plus de grands rassemblements. Ils ont réussi à attirer 3000 personnes dans le hall du centre Vidéotron. Il y avait des gens même à l'extérieur, mais ça, c'est sans compter que ils avaient aussi fait un rassemblement un peu pour lancer leur campagne à Québec déjà. Ils ont tenu des rassemblements en Beauce aussi. Donc, c'est ceux qui ont attiré les plus grandes foules. Mais pendant ce temps-là, c'est très tranquille, tu sais, du côté des autres partis, là, j'entends, tu sais, qu'en 2003, quand on a commencé, justement, nous, à couvrir des campagnes, Antoine, ces grands rassemblements-là, ce n'était pas rare, là, chez les libéraux avec Jean Charest, les péquistes avec Bernard Landry, il y avait à plus d'une reprise au cours d'une campagne des rassemblements où il y avait de bonnes foules, là, où on pactait des salles, comme on dit.
Ça s'est vraiment perdu. On a posé la question à Gatineau, on avait posé la question justement à Maryse Gaudreau, la députée de Hull, là, et elle avait dit, on dirait que les gens aujourd'hui se contentent d'un like sur Facebook. Donc, il y a un lien avec la virtualisation du monde et des rapports humains, je pense. Mais c'est vrai que les conservateurs, eux, réussissent à faire des... Écoute, même dans des restaurants, là... C'était impressionnant quand le chef se présentait. Il y avait beaucoup de monde, là, les restaurants pleins à craquer. Mais il y a le chef péquiste qui en promet un. Là, avec moi, en entrevue dimanche, il a dit « ça sera un grand rassemblement ». J'ai dit « aussi grand que celui des conservateurs ». Au début, il a dit « oui ». Après ça, Nicolas Lachance, il a dit « non, j'ai jamais dit ça ». Bon, alors, on verra.
Oui, parce que moi, ce que je pense, c'est que là, les autres veulent pas souffrir la comparaison. Parce qu'on me dit aussi que chez les caquistes, il y aurait un rassemblement ce week-end à Terrebonne. Et c'est un secteur où la CAQ et a toujours été forte là dans le 4-5-0, dans les banlieues, dans la couronne. Et mais en même temps, c'est ça, nous aussi, lorsqu'on a reposé des questions là-dessus après avoir obtenu des informations, là, on s'est fait dire on verra. Bon, alors moi je pense qu'ils veulent pas créer trop d'attentes, et parce que tu sais, si il y a quelques centaines de personnes, ça aura l'air peu à comparer aux conservateurs. Mais donc c'est très particulier. Il y a les solidaires qui ont tenu un spectacle en Estrie aussi, mais sinon là c'est plutôt rare.
Est-ce que ça serait le vieillissement des partis politiques? Vieillissement des militants, donc des militants plus âgés, ça sort moins. En tout cas, on l'a vu chez les libéraux. Écoute, les militants que Dominique Anglade a croisés, notamment à Montmagny, là, c'était vraiment des personnes très âgées. Par ailleurs, justement, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est la pandémie aussi qui fait que tout le monde a perdu l'habitude de sortir? Je sais pas, c'est l'ensemble de ces facteurs-là, je pense, qui explique que pour la plupart des partis, là, conservateur est une exception. Les rassemblements, c'est devenu quelque chose de passé ou de difficile à organiser.
Ouais, mais ben en 2018, c'était avant la pandémie, il y en avait moins aussi. Moi, je pense qu'on voit aussi le fait que c'est l'absence de grands projets de société, je pense aussi, qui fait en sorte qu'on mobilise moins. En tout cas, c'est mon hypothèse, parce que dans le passé, il y avait des gens qui votaient, qu'ils avaient des raisons émotives, ils étaient heureux de se présenter sur place pour dire « je suis là, j'appuie cette cause », bon, que ce soit par exemple l'indépendance ou contrer l'indépendance, ouais, c'est ça exactement. C'est ça. Mais là, ben on dirait que c'est comme s'il y a rien qui est très émotif là. C'est plutôt bon, est-ce qu'on est satisfait du gouvernement, est-ce qu'on a une tendance pour un autre parti que d'autres propositions. Mais tu vois justement ceux qui sont le plus touchés émotivement, ce sont les gens qui sont fâchés de la gestion de pandémie, c'est eux qu'on retrouve dans des rassemblements chez les conservateurs. Alors, j'ai l'impression qu'il y a de ça aussi. Là, il y a un changement de mœurs graduel, mais il y a le fait, je pense, que la plupart des partis ont pas suscité, là, je dirais, le rêve ou vraiment de grandes passions là pour que les gens sentent le besoin de sortir et se rassembler pour eux là.
Parlons du deuxième match ce soir des éliminatoires. C'est effectivement à Radio-Canada. Moi, je m'en vais là tout de suite après notre converse là, et j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que tu penses qui va se passer.
Ben c'est sûr que comme il y a eu le face-à-face à TVA, je pense que les chefs ont eu l'occasion d'enlever une couche de rouille un peu là en matière de débat et qui vont s'adapter. Ils savent quelles ont été leurs lacunes la semaine dernière. Je pense que donc ils savent quoi corriger, comme par exemple François Legault, là, c'est d'une évidence là, totale. Là. Il n'avait pas l'air d'avoir envie l'autre fois, donc là, il faut qu'il ait l'air d'avoir envie de faire un nouveau mandat, puis de dire aux gens pourquoi que ce serait bien que la CAQ poursuive son travail, ça ferait quoi? Il faut qu'il soit plus souriant. Bon, alors dans son cas, c'est très facile comme changement de cap, je dirais, opérer. Et pour les autres...
Je tiens à souligner que... Bon, ma deuxième entrevue là, dans l'émission, c'est avec Mireille Paquette, une experte en immigration. On peut pas la soupçonner d'être caquiste, là, surtout qu'elle vient de l'Université Concordia. Et elle dit le bilan de la CAQ en immigration est considérable. Puis, mais le premier ministre n'en parle pas, je le constate. Puis c'est vrai qu'il n'en parle pas beaucoup. Alors, ça serait peut-être une idée ce soir quand tu dis aux gens « continuez ». Mais ben, continuer quoi? Ben, ce qu'on a commencé, puis on a accompli des choses.
Alors, oui, c'est ça.
Ça serait mon conseil gros bono à M. Legault.
Exact, parce que M. Legault a pas été, on dirait, vendeur de quoi que ce soit la semaine dernière.
Non.
Dans le cas de Paul Saint-Pierre Plamondon, ben, je pense que la semaine dernière, il y avait aucune attente à son endroit. Les gens l'ont trouvé sympathique, je pense, ont aimé son attitude. Par contre, là, cette fois-ci, c'est comme si le fait d'avoir paru comme quelqu'un qui avait bien fait, ben là, il y aura davantage d'attentes et je pense qu'il faut qu'il en profite quand même pour tenter de marquer des points. Dominique Anglade, je trouve ça dommage à dire, mais moi, je pense que sa performance ne change rien à la débandade, à la glissade qu'on observe des libéraux, parce que je pense que c'est pas particulièrement de sa faute, en tout cas pas de son attitude en débat.
Ouais.
Pourtant, je pense que les libéraux ont mis, on en a parlé à quelques reprises, sur la table des bonnes idées, tu sais, comme par exemple le fait d'abolir la taxe de bienvenue pour l'achat d'une résidence, l'abolition des frais de garde le midi à l'école. Bon, elle a présenté des choses qui touchent les gens, qui sont intéressantes, mais le verdict n'est pas là. On dirait que le verdict est sur le fait que les libéraux, c'est un parti qui a pas été capable de montrer vers où il se dirigeait dans ses changements de cap, et il y a vraiment là une perte d'appétit à son endroit.
Puis je pense qu'elle prête flanc, Dominique Anglade, à des attaques, parce qu'il y a quand même deux grandes erreurs là. L'erreur dans sa campagne, c'est-à-dire l'erreur sur le cadre financier, puis l'erreur sur les tétrawatts que ça prendrait pour développer son projet éco. Oui. Hein, il faudrait couvrir le Québec d'éoliennes.
Ben oui, c'est ça. Alors, je dis, c'est, je pense que l'erreur dans son cadre financier, ça n'a même pas vraiment été soulevé par ses adversaires, mais ils ont toujours cette munition-là, effectivement, pour lui répondre.
Ah oui, elle a été obligée de dire l'erreur est humaine la dernière fois. Et on a corrigé. C'était un peu pitoyable.
Bon. Et dans le cas d'Éric Duhaime, continuer, je pense, à montrer qu'il n'est pas là que pour parler de la colère contre la gestion de pandémie. Il doit, je pense, vendre encore plus ses idées dans d'autres secteurs qui touchent le Québec. Et Gabriel Nadeau-Dubois, ben lui, c'est parce que c'est celui qui a été, je pense, le chef qui a été le plus à l'aise la semaine dernière. Il avait de bonnes lignes pour à peu près tout le monde dans ses répliques, dans ses échanges. Alors, lui, je pense que c'est difficile de penser faire mieux. C'est juste d'être prêt au fait qu'il risque d'être attaqué davantage, étant donné justement qu'il a réussi à mettre un peu les lumières sur lui.
Je gage qu'on va entendre l'expression « taxe orange » ce soir.
Oui, oui, je ne serais pas surpris, oui.
Un autre député caquiste porte plainte à la police, Rémi? Qui?
Oui, en terminant, c'est Éric Kerr, donc ministre sortant de la CAQ et député de la Pelleterie. Je le souligne, c'est dommage. On l'a dit à quelques reprises qu'on en soit là. Encore une fois, c'est un cas de pancarte vandalisée, mais vandalisée avec comme un message menaçant à son endroit. Donc, il a porté plainte à la police parce que sur une pancarte dans sa circonscription, il y a vraiment comme du sang, comme une trace de balle, si tu veux, avec du sang sur la pancarte. Donc, il peut pas... Il dit, je peux pas faire autrement que le prendre comme une menace là, à mon intégrité physique. Puis, je voyais son attaché de presse, Nathalie Saint-Pierre, que l'on connaît, nous, affirme qu'elle a besoin d'une présence masculine quand elle fait du porte-à-porte, parce que sinon, elle n'est pas rassurée. Là. Elle est craintive des gens sur qui ils peuvent tomber en rencontrant comme ça au hasard un peu là, des gens de la population dans le comté.
Mais voyons donc.
Alors, c'est ce que je trouve dommage, parce que du vandalisme sur des pancartes, c'est vieux comme le monde, là, tu sais, des gens qui font des moustaches sur des pancartes ou qui mettent un nez de clown, ou, tu sais, il y a du vandalisme que... c'est plate, là, mais
dirais-tu
bon...
Dirais-tu du vandalisme sympathique?
Du vandalisme moins grave, mais là, on voit de plus en plus, puis moi, je l'ai remarqué particulièrement à l'égard des pancartes de la CAQ, là, comme des traces, on dirait, avec des exactos, là, comme pour enlever, par exemple, la tête du candidat ou le... puis ça, c'est vraiment, il y a quelque chose vraiment d'inquiétant là-dedans. Donc, continue de rappeler aux gens que la façon de s'exprimer, c'est vraiment d'aller voter contre le parti que vous aimez pas, mais sans avoir des comportements qui font en sorte que les autres ont peur, d'installer une crainte, parce que là, c'est pas ça l'exercice de la démocratie. Il faut que les gens qui s'impliquent aient la chance de le faire en toute quiétude, sans avoir peur pour leur propre intégrité ou pour les membres de leur famille. C'est vraiment de base. On espère qu'il y aura assainissement. Et puis par ailleurs aussi, je voulais dire que je trouve qu'on en... Il y en a été question beaucoup, brièvement, là, quand il y a eu de Marois Risky aussi qui avait porté plainte, mais il faut pas que ça tombe dans l'oubli par la suite. Je pense que les partis doivent se prononcer sur qu'est-ce qu'ils ont à proposer comme solution là, pour assainir le climat social.
– Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5 000 pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
Antoine Robitaille.
Le véritable troisième lien. Le Salon Bleu à vos oreilles. Et tout ça sans utilisation des fonds publics.
Comme en 2018, l'immigration a été un thème très important de cette campagne et le sera peut-être ce soir lors qu'il y aura le débat, le deuxième débat. Par la question des seuils, les seuils d'immigration, mais aussi par celle de la survie du Québec français, on en parle avec Mireille Paquette. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure de sciences politiques à l'Université Concordia, titulaire de la chaire de recherche sur la nouvelle politique de l'immigration. Pourquoi, selon vous, l'immigration occupe une aussi grande place dans la présente campagne?
Mais déjà, il faut noter qu'au début de la campagne, on avait l'impression que ça ne serait pas si important que ça, surtout si on le compare à l'élection de 2018. Mais plus le temps a avancé, plus cette question-là a pris de la place. Puis je pense qu'il y a, il y a plusieurs raisons, mais il y en a une qui, moi, personnellement, m'intéresse plus. C'est le fait que, je pense que pour François Legault et pour l'équipe de la CAQ, l'immigration, ça a été vu comme un sujet sur lequel il pouvait fortement se différencier des autres et parler d'une certaine façon à des électeurs qui avaient peut-être des anxiétés autour de la langue et autour de l'identité québécoise et qui traditionnellement auraient peut-être pu osciller un petit peu plus vers le Parti québécois, mais parler à ces électeurs-là pour essayer de ramasser ou d'aller chercher une majorité encore plus importante.
Puis il a fait un lien, un rapprochement entre immigration et montée de la violence. Il a évoqué, sans l'expliquer, les exemples de la Suède et de l'Allemagne. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la recherche qui peut soutenir ce type de rapprochement, de lien?
Mm-hmm. Mais je pense qu'habituellement, dans la recherche, ce qu'on voit surtout, c'est que c'est pas tant l'immigration qui peut être liée à une augmentation des crimes ou de l'insécurité, mais c'est plus les types de précarité, que ce soit des précarités économiques comme la pauvreté ou des précarités liées au statut d'immigration qui auront tendance à augmenter certaines formes de criminalité. Mais encore là, ces formes de criminalité-là, ça sera surtout des criminalités de survie, donc c'est par exemple travailler de façon illégale sans un permis ou quêter, si je peux me permettre l'expression. Mais les recherches montrent que le lien entre crime et immigration est loin d'être causal, puis vraiment pas comme le premier ministre a essayé comme de le faire là, pendant la campagne.
Avant de s'excuser, parce qu'il s'est rendu compte que ça tenait pas debout.
Oui, en effet.
Pour ce qui est du Québec français, est-ce que l'anxiété n'est pas complètement folle dans le sens où les transferts linguistiques font que effectivement, il y a beaucoup d'immigrants qui vont grossir les rangs des anglophones ou de ceux qui vivent en anglais à Montréal?
Mais je pense que par rapport à ça, et certains de mes collègues me le rappellent souvent avec raison, faut jamais dire que ces inquiétudes-là sont des inquiétudes qui sont pas rationnelles. Puis les gens ont le droit d'avoir des craintes par rapport à tout ça. Mais en même temps, ce qu'on voit dans la recherche, c'est plusieurs choses. La première chose, c'est de dire que on peut créer des conditions qui favorisent le transfert ou l'absence de transfert linguistique vers l'anglais chez les immigrants. C'est-à-dire que c'est pas automatique que les immigrants vont s'intégrer à la langue anglaise plutôt qu'à la langue française, mais il faut créer des conditions à la fois pour l'accès aux cours et aux services en français, mais aussi un contexte qui est accueillant et qui permet aux personnes de vouloir s'intégrer à la langue française. Et ça fait vraiment un effet. Ça a vraiment
ça voudrait dire quoi concrètement?
Ben, ça voudrait dire, ça a déjà été mis en place en fait par la CAQ, mais ça devrait continuer, c'est-à-dire l'accès à des cours de français pour les personnes, peu importe leur statut d'immigration, et l'augmentation des allocations pour suivre des cours de français à temps plein. Parce qu'une des choses qu'on sait, c'est qu'une fois qu'on arrive au Québec en tant qu'immigrant, la première chose qu'on veut faire, c'est de travailler, puis ça se comprend. Mais quand on nous dit oui, vous pouvez prendre un cours de français, mais l'allocation qu'on va vous offrir, pour pouvoir apprendre le français va être très limitée, mais c'est sûr que des fois, vous devez faire le choix entre travailler et apprendre le français. La deuxième chose, c'est d'augmenter la francisation en milieu d'emploi pour permettre aux personnes qui doivent travailler et souhaitent le faire de pouvoir continuer leur apprentissage linguistique dans la langue. Mais la troisième chose aussi, vraiment, là, c'est de s'assurer que ça tente au monde d'apprendre le français. Mmh. Puis ça, ben c'est, si je peux me permettre, c'est aussi une question de contexte et de façon dont on parle de l'immigration au Québec. Parce qu'une des choses qu'on voit de plus en plus, c'est que les débats justement assez négatifs sur l'immigration, ben leur conséquence, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui pensent que peu importe ce qu'ils font, qu'ils apprennent le français ou pas, et qui participent à la société ou pas, ils seront jamais perçus comme étant des Québécois à part entière. Ça, ça a un effet.
Mais des clauses scolaires, est-ce que ça ne peut pas aider? Je pense que ça a été déterminant dans la première loi 101. Et là, si on l'étendait au cégep, ça pourrait améliorer les choses.
Potentiellement, je dois vous avouer que là, sur l'impact de la mise en œuvre, particulièrement de la clause cégep, je peux pas me prononcer en tant qu'experte. Mais c'est quelque chose à explorer, bien entendu. Mais là aussi, il faut s'assurer que les professeurs dans les cégep et les institutions sont prêtes à faire un accueil de qualité puis à s'adapter à des clientèles étudiantes qui vont avoir des défis au niveau de l'apprentissage linguistique. Donc, je pense que c'est une bonne idée, mais il faut le faire avec les investissements qui suivent.
Vous avez évoqué le bilan considérable de la coalition Avenir Québec au pouvoir. Vous l'avez qualifié vous-même dans un colloque auquel j'ai participé de considérable. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Pourtant, le premier ministre n'en parle pas, c'est curieux. Je le dis moi, là, je ne suis pas un expert ou un universitaire, mais je le constate comme chroniqueur. Parlez-moi un peu de ce bilan-là que vous avez qualifié de considérable. Il y a plein de choses qui ont été faites.
Ouais, il y a beaucoup de choses qui ont été faites par le gouvernement pendant son premier mandat. Puis vous avez raison. Moi aussi, je me questionne un peu à savoir pourquoi est-ce que ces réalisations-là sont passées sous silence. Mais je pense que la plus importante, c'est vraiment l'augmentation des conditions d'accessibilité ou l'élargissement des conditions d'accessibilité aux cours de francisation aux immigrants, peu importe leur statut. Mmh. Et ça, c'est vraiment important parce que par le passé, les services de francisation et les services d'intégration plus largement étaient limités aux immigrants permanents, aux statuts permanents et aux personnes qui étaient là depuis moins de 3 ans. Ah, et oui. En augmentant l'accessibilité aux services, ce que ça fait, c'est que premièrement, on permet à plein de gens qui souhaitaient apprendre le français, par exemple, de pouvoir le faire de façon gratuite. Donc, on pense en particulier aux immigrants temporaires qui sont là depuis quelques années et qui peut-être voudraient rester. Mais on pense aussi à des clientèles qui ont été documentées comme n'utilisant pas ces services-là dans les 3 prochaines années. Par exemple, les femmes qui souvent, lorsqu'elles émigrent en famille, vont se concentrer sur l'éducation de la famille pendant que plus d'attention va être donnée à l'apprentissage du français puis à l'intégration en emploi des pères. Ouais. Et donc, souvent, ces femmes-là se retrouvent après 3 ans un peu dans le vite parce qu'elles n'avaient pas accès aux cours de français et c'est à ce moment-là qu'elles avaient le temps et la capacité de se concentrer là-dessus. Donc ça, c'est une très grande réalisation et c'est unique même au Canada. Donc, il n'y a aucune autre province, le gouvernement fédéral non plus, n'a pas mis ce type de service-là en œuvre.
Ah oui.
Donc, je pense que c'est franchement une victoire pour l'ensemble des Québécois et ça vaudrait la peine d'en parler, ouais, un peu plus.
Oui, c'est ça. Au lieu de faire des liens qui n'existent probablement pas. Les budgets ont beaucoup augmenté aussi pendant le premier mandat caquiste.
Oui, en effet, ça faisait partie des promesses. Puis entre autres, il y a eu une augmentation des budgets pour la régionalisation de l'immigration. Puis comme on le voit avec les pénuries de main-d'œuvre à l'heure actuelle, ben il y a vraiment des besoins là, pour que les immigrants s'installent à l'échelle du Québec.
Ça marche, la régionalisation? Il me semble que on dit toujours que ça a été un grand échec et c'est toujours dans le discours. Et à chaque élection ou même chaque gouvernement promet de le faire, puis ça fonctionne pas.
Est-ce que ça, là, ça commence à fonctionner ou quoi?
Ben, écoutez, c'est difficile de dire parce que un beau plan de régionalisation lancé juste avant une pandémie, c'est sûr que ça limite son efficacité. Donc, je peux pas vraiment m'avancer sur la réussite.
Il n'y a pas de verdict possible.
Non. Par contre, j'ajouterais que c'est toujours compliqué puis que ça va toujours être un défi. Donc, on essaie des choses, mais ce gouvernement-là n'a pas, à mon avis, trouvé la solution à ce problème vraiment, vraiment complexe.
Il y a un consensus qui, dans les cinq partis, je crois, c'est rapatrier des pouvoirs en immigration. Évidemment, il y a des partis qui le mettent plus en avant que d'autres, là, la CAQ, le Parti québécois, le Parti conservateur. Mais est-ce que c'est possible? Et est-ce que c'est souhaitable?
Je ne sais pas si c'est souhaitable. Ça, je pense que c'est une question avant tout pour les citoyens et les électeurs à propos de laquelle il faut qu'ils décident. Par contre, est-ce que c'est possible? Je vous dirais que moi, ça a été vraiment un sujet sur lequel je me suis penchée, l'évolution de ces pouvoirs-là à l'échelle du Canada.
Dans votre livre, La fédéralisation de l'immigration.
Oui, exactement. Et je vous dirais que je ne crois pas que ça va arriver. Le Québec a actuellement des pouvoirs vraiment incomparables à l'échelle du Canada pour ce qui est de l'immigration et reçoit aussi des ressources vraiment importantes de la part d'Ottawa pour l'intégration des immigrants.
Ouais.
Et je ne vois pas vraiment Ottawa être prêt à donner plus de ressources ou plus de pouvoirs au Québec. D'autant plus que on en parle, mais on ne discute pas avec les citoyens de ce que ça coûterait et de ce que ça voudrait dire en termes de ressources administratives rapatriées des pouvoirs comme ceux de la réunification familiale. Donc, je pense que... Entre autres, ça voudrait dire augmenter la taille de la fonction publique québécoise dans le domaine de l'immigration et offrir encore plus de services d'intégration qui sont présentement ou de services pré-arrivés qui sont potentiellement déjà offerts par Ottawa. Donc, je pense que sur papier, c'est une belle idée, mais si on s'attardait vraiment à ce que ça peut vouloir dire en pratique, là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui déchanteraient là-dessus, dans les faits.
Puis là, le gouvernement du Québec devrait faire un boulot plus difficile. Je pense à déporter, à refuser des citoyennetés, à refuser à faire des boulots qu'il ne fait pas actuellement parce que actuellement, il y a un peu le beau rôle, non? C'est ça?
Ben, d'une certaine façon, tu sais, je pense pas qu'on n'a pas jusqu'à date parlé de rapatrier, par exemple, les pouvoirs au niveau du contrôle frontalier. Ça, je pense que le Québec est clair que.
Ben, peut-être le Parti québécois.
Oui, c'est ça. Mais sinon, c'est vrai, vous avez raison. On pourrait le dire comme ça, que le Québec a, d'une certaine façon, le beau rôle en se cantonnant à la sélection des immigrants économiques et en aidant une partie de l'accueil des réfugiés parrainés par l'État, entre autres. C'est sûr que c'est moins d'attention donnée à peut-être des actions plus négatives dans le domaine de l'immigration là, pour la rentrée.
La pénurie de main-d'œuvre, on en parle énormément. L'immigration est toujours citée comme une des solutions. Le Parti libéral, surtout, met ça en avant. Mais l'Ontario a reçu énormément d'immigrants, beaucoup plus que le Québec, même, je pense, en proportion, dans les 10 dernières années, et est autant en pénurie de main-d'œuvre et en pénurie de logement que le Québec. C'est contre-intuitif peut-être, mais est-ce que ça ne crée pas la pénurie de main-d'œuvre aussi d'accueillir énormément d'immigrants?
Mais je pense pas que d'accueillir des immigrants, ça crée la pénurie de main-d'œuvre, mais je pense que la solution aux pénuries de main-d'œuvre doit inclure l'immigration, mais ne peut pas seulement inclure l'immigration.
Ah oui, c'est ça.
Et surtout, l'enjeu qu'on vit, c'est que la pénurie de main-d'œuvre, on la voyait venir, ça fait, moi, quand j'ai commencé mes études universitaires, on en parlait déjà. Donc, je vous dis pas quand j'ai commencé, mais ça fait longtemps. et la pénurie de main-d'œuvre, on la voyait venir et on n'a pas nécessairement mis en place des solutions à long terme et à moyen terme. Et là, ce qu'on est en train de faire maintenant avec l'immigration, c'est d'utiliser l'immigration comme une solution à court terme pour la pénurie de main-d'œuvre. Ce qui n'est pas une mauvaise chose à proprement parler, mais ce qui n'est pas suffisant. Donc, ce n'est pas seulement en accueillant des immigrants pour la semaine prochaine qu'on va pouvoir aider la pénurie de main-d'œuvre avec l'immigration, mais c'est aussi en planifiant des seuils d'immigration à long terme où on va pouvoir planifier non seulement la croissance démographique par les immigrants qui arrivent, mais leurs enfants aussi, qu'on va vraiment pouvoir rebâtir la main-d'œuvre du Québec à moyen et à long terme.
Et là, je tiens à dire aux lecteurs, pas aux lecteurs, mais aux auditeurs qui m'écriraient pour me dire, mais pourquoi vous n'avez pas demandé quel est le seuil idéal? Parce que votre réponse, je pense qu'il n'y en a pas scientifiquement, hein, c'est ça?
Ben c'est ça, je sais pas moi c'est quoi le seuil idéal parce que c'est pas mon domaine d'expertise. Moi j'étudie la politique de l'immigration, puis c'est sûr que avec des amis j'ai peut-être une opinion, mais je préfère ne pas me prononcer sur un chiffre idéal parce que je pense encore une fois que ce qui arrive quand on parle de seuil et on se met à une discussion sur les seuils, c'est qu'on perd de vue le fait que tout ça, ça doit s'inscrire dans une discussion autour d'un projet de société et d'une planification plus large, macroéconomique et au niveau des dépenses sociales aussi. Et quand je dis ça, je veux pas dire qu'il faut limiter l'immigration non plus, mais qu'il faut juste penser à nos besoins en matière d'immigration et aussi nos obligations internationales en matière de protection. Juste bien au-delà d'un seuil annuel. C'est vraiment de penser de façon compréhensible, de certaines façons.
Merci beaucoup pour cet entretien très éclairant, Mireille Paquette.
Cube Radio.